C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on se pose la question ensemble, comment bien écrire pour les réseaux sociaux? Et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, ça va, tu vas bien?
Je suis en pleine forme. Ah ouais, ça roule super.
Bah super, moi aussi je suis content. J'ai mon nouveau micro là que j'ai récupéré hier à l'agence et ça fait bien plaisir de le tester ce matin. Donc vous nous direz ce que vous en avez pensé si le son était tout aussi bon.
Voilà, oui, c'est un petit. Bon, c'est bien pour ceux que ça intéresse. Pour les fans de tech, ouais. De matos, Adjane pourra vous faire un petit bilan matos hein, pour ceux que ça intéresse. Pour les amoureux de podcast ici. Donc, je le disais, on parle écriture pour les réseaux sociaux et surtout engagement. Hein, comment écrire pour le web, comment écrire pour les réseaux sociaux, écrire du contenu qui engage, hein, parce que c'est ça l'enjeu. L'engagement, c'est pas qu'une histoire de visuel. Ça, c'est quand même très important de le dire.
Oui, effectivement, aujourd'hui, on va faire un gros point de focus sur les rédactions des statuts et comment on fait des statuts de posts sur les réseaux sociaux qui vont engager nos audiences. Les wordings, c'est ultra important aussi en social media pour ça. C'est souvent même eux, parfois, qui vont plus permettre d'engager de l'audience que les visuels qu'il va y avoir en dessous, comme tu disais. Donc ça, c'est vraiment un point de focus qui, souvent, est un peu délaissé. On a tendance à penser qu'il faut faire des super créas et puis on prend deux secondes pour écrire un petit quelque chose en se disant « Ah, c'est bon, ça fait l'affaire ». Et au final, c'est un vrai boulot. Il y a une vraie utilité à ça.
Ouais, bah, c'est sûr que les algorithmes des plateformes, ils sont de plus en plus exigeants, de plus en plus compliqués pour faire émerger. Et on sait que l'engagement, faire émerger nos contenus, hein, on sait que l'engagement, bah, c'est la clé hein, pour que mon contenu, il touche plus de personnes, que la portée soit accrue hein, sur ces contenus-là. Et ça passe évidemment par le visuel, mais il y a beaucoup en matière d'engagement qui se passe dans le wording. C'est aussi simple que ça. Et du coup, bah, oui, quelques conseils de rédaction simples ce matin. Avec, on a imaginé un truc, allez, un petit peu fastoche avec six règles à connaître pour augmenter l'engagement de ces contenus. On va les parcourir ensemble, ces six règles. Peut-être avant, on peut se poser la question, hein, pourquoi c'est important d'engager, pourquoi c'est important de transformer une marque en marque conversationnelle sur les réseaux sociaux?
Oui, parce que quand on parle d'engagement, on parle pas seulement d'engagement comme ça, comme juste une belle chimère. On parle aussi de créer du lien avec ses audiences et on parle de transformer sa marque en marque conversationnelle. Alors, c'est quelque chose que vous avez déjà dû entendre dans le Super Daily si vous êtes des aficionados, comme diraient les vieux. Mais en tout cas, c'est un terme que vous avez déjà dû entendre, la marque conversationnelle. Et quand on parle d'engagement, on parle aussi de ça. On parle d'arriver à créer de la discussion, de la conversation avec ses audiences. Et on va voir que ça a plein de bonnes raisons de créer cette conversation. Tu le disais déjà, ça a quelque chose d'algorithmique, hein, parce que quand on crée de la conversation, de l'engagement autour de ces posts, on a plus de portée organique. Donc, juste d'un point de vue algorithmique déjà, c'est intéressant d'être dans cette démarche-là. Mais il y en a d'autres, des bonnes raisons, et on va les énumérer ce matin.
Exactement. Allez, je le disais donc, six règles pour des statuts qui engagent. Règle numéro un, et je pense que là, on va revenir un peu aux fondamentaux. Il faut connaître par cœur ses audiences cibles. À qui est-ce que je m'adresse? Qui est de l'autre côté de l'écran? Quels sont, du coup, leurs pain points, hein, je dirais, les éléments où ils sont en souffrance, où ils ont besoin de réponses? Quelles sont aussi leurs motivations, les trucs qui les enthousiasment, qui les font sourire, s'émouvoir, etc. Il faut absolument connaître par cœur ses audiences. Et pour ça, eh bien, il y a un préalable à toute stratégie, à toute action social media, c'est celui d'avoir procédé à une étude de ses personas au préalable.
Ouais, c'est clair. Il faut connaître ses personas, faut connaître ses cibles, il faut savoir à qui on parle, à qui on s'adresse, à qui va être notre client final. Pour ça, il faut connaître ses audiences et effectivement, c'est quelque chose quand on le dit en fait comme ça à chaque fois qui paraît être qui paraît couler de source. On se dit genre, bah oui, bien sûr, il faut connaître ses audiences. Oui, mais enfin, si vous ne faites pas l'effort d'échanger avec eux, de vous transformer justement en marque conversationnelle, en fait, vous allez penser et croire que vous connaissez vos audiences sans jamais vraiment les connaître. Et c'est là que situe vraiment le cœur de cette stratégie social media, c'est d'aller au bout du processus et de se dire, OK, on va, même dans la rédaction de nos statuts, dans les commentaires, quand on va discuter avec nos audiences, on va apprendre à les connaître, on va apprendre à savoir ce qui les intéresse, les points communs qu'on peut avoir entre notre marque et leurs attentes, et on va pouvoir créer tout un univers de marque et on va pouvoir employer le bon ton, etc., etc., dans nos statuts.
De façon très concrète, hein, nous ici, quand les CM de chez Supernatif travaillent un wording, travaillent le texte d'un statut de poste, eh ben ils ont en tête, voire même parfois ils ont carrément devant eux le travail qu'on a fait au moment des personnages. Donc ils savent exactement s'ils s'adressent à Nathalie, 35 ans, maman, milieu urbain, qui a telle frustration dans la vie et puis telle qui s'enthousiasme pour tel sujet, ou s'ils parlent à Kevin, 17 ans, qui habite à la campagne, etc., etc. Ça change beaucoup la donne. Hein. Ça change énormément la donne de connaître ses audiences cibles. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2 qui est forcément liée, c'est de savoir parler évidemment la même langue que ces personas. Hein. Par exemple, un article que vous écrivez sur LinkedIn pour les cadres supérieurs, eh ben, il va se lire très différemment d'un article que vous écrivez sur Facebook pour une audience de mamans connectées, des fameuses connected moms. C'est pas la même langue, c'est pas le même langage. Hein. Non seulement ces deux groupes de personnes, eh bien, ils ont des défis ou des points de vue différents sur la vie, mais leur langage aussi diffère considérablement. Il y a des jargons propres à chaque communauté, à chaque persona. Les connected moms, elles parlent différemment que les cadres supérieurs, c'est comme ça. Alors, j'ai un bon exemple sur un compte qu'on accompagne à l'agence, c'est le compte Ipone, hein, nos amis d'Ipone qu'on salue là, au passage, marque moto française pour les motards, par les motards. Et là, forcément, bah, en face, tu as une communauté de clients qui sont des motards ou des motards. Et chez Supernatif, bah, comment on a fait pour s'adresser au mieux, apprendre la langue de cette communauté, bah, on a procéder à une étude sémantique poussée. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dressé une liste de plein de synonymes. Par exemple, tiens, comment est-ce que je dis moto quand je suis un motard ou une motarde? On est allé parcourir des tonnes de forums, des tonnes de sites, des tonnes de comptes et de groupes privés, etc., pour vraiment s'acculturer à la langue de cette communauté. Hein. On a aussi blacklisté des expressions. Non, ça ne se dit pas. On ne dit pas une brêle, on ne dit pas un brêlon, on ne dit pas une meule, etc. Toutes ces expressions, c'est des expressions qui sont considérées comme ringardes ou hors de propos pour cette communauté, alors que dans d'autres, elles pourraient passer. Et puis, on va aussi jusqu'à identifier des émoticônes qui marchent avec cette communauté. On va jusque-là. Quels émoticônes sont les plus utilisés par la communauté cible? Et en fait, en apprenant tous ces petits détails, on apprend tout simplement à savoir parler la même langue que ces personnes.
Et puis, à pas faire de faute de goût. Comme tu disais, chaque communauté a son propre langage. Et ça, c'est au-delà des réseaux sociaux. Hein. C'est quelque chose, c'est presque sociologique. Chaque génération a ses propres expressions, son propre langage, chaque classe sociale, des communautés un peu particulières comme les motards, comme tu disais, qui peuvent avoir leurs propres expressions. Et tout ça, si vous ne connaissez pas vos personas, vous ne pouvez pas connaître cette langue. Et après, il s'agit de ne pas faire faute.
Avec ces audiences, si tu ne parles pas la même langue qu'eux. Hein.
Exactement. Donc ça, c'est primordial pour la rédaction de ces statuts. C'est d'avoir ces personas en face des yeux pour savoir à qui on s'adresse. Et puis, bien sûr, avoir tout le champ lexical requiert l'écriture de ces statuts pour s'adresser à ces personnes-là.
Règle numéro 3, eh bien, donnez la priorité à vos audiences. Déjà, on va partir du principe que ça ne se fait pas, hein, quand on est en conversation, de ne parler que de soi. Hein, ça fait quand même très égocentré. Et puis, il faut savoir écrire des textes de statuts qui mettent le public, mes audiences cibles, au centre de l'histoire, au centre de ce que je raconte. Alors, comment faire? En fait, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de dire beaucoup moins nous et beaucoup plus vous quand on écrit ces textes de statut. Voilà, on s'adresse à des gens et du coup, on veut les mettre au cœur du texte de statut.
Oui, et puis alors là, je pense qu'on peut même pousser le curseur un peu plus loin parce que j'aime bien cette règle-là, ce point-là, parce que c'est un point un peu sensible à l'intérieur de la marque conversationnelle. Et c'est souvent là-dessus que les marques ont du mal à aller jusqu'au bout. Quand on dit donner la priorité à ses audiences et ne pas parler que de soi, et bah, ça veut aussi dire, par exemple, ne pas parler que de ses produits ou ne pas parler que directement de sa marque, mais peut-être d'essayer d'en parler de manière plus indirecte en partageant des choses qui intéressent réellement nos audiences et pas arriver avec juste je vends des gourdes, c'est des super gourdes en inox, et parler que de ça dans tous les posts et sans jamais parler de quelque chose peut-être qui pourrait, on peut se dire, où est-ce que mes consommateurs vont utiliser cette gourde en inox à leur travail? Peut-être que je peux essayer de trouver des choses qui peuvent les aider dans leur travail, peut-être dans les transports, peut-être en rando, j'en sais rien, mais je vais trouver des moments, des instants de consommation, je vais trouver d'autres choses que je peux partager avec ces audiences-là et avec qui je peux échanger avec ces audiences-là et qui ne parlent pas forcément de mes produits et de moi.
Et puis si je fais juste le simple exercice au moment d'écrire mon statut, de me dire non, je n'écrirai pas avec le « nous » et je vais plutôt utiliser le « vous », vous allez voir que ça va complètement changer la tournure de votre écriture et ça va vraiment vous contraindre, vous obliger à écrire pour une audience en leur donnant la priorité. Ça, c'est la règle numéro 3. Règle numéro 4, il faut écrire du coup des statuts que les gens veulent partager. Ça devient un enjeu majeur. On a déjà ici dans ce podcast longuement parlé du dark social, de l'émergence du conversationnel via des canaux privés. Aujourd'hui, on a une priorité, on est passé dans une phase où la priorité pour une marque, c'est d'aller chercher évidemment l'engagement. Et au milieu, on a le Graal, c'est le partage. Ça nécessite de comprendre pourquoi les gens partagent du contenu. Moi, je vois deux raisons majeures. Il y en a plein d'autres, mais si on doit simplifier, la première raison, c'est que les gens, ils veulent partager des choses qui leur apportent de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être un contenu qui soit utile, donc tutoriel, par exemple. Une recette, etc. Ça, c'est le genre de truc qu'on est susceptible de partager, qu'il soit divertissant ou surprenant. Parce que ce qu'on veut quand même, quand on partage avec ses potes, avec sa propre communauté perso, on veut quand même aussi un peu faire le malin, c'est ça le principe. Et donc, on veut nous aussi apporter de la valeur à notre micro-audience en tant qu'individu. Donc, première raison, les gens veulent partager des choses qui apportent de la valeur. Et puis, deuxième raison, les gens, ils veulent partager des messages qui sont susceptibles d'entamer eux aussi une conversation. Quand toi, à titre perso, Adjane, tu partages un post, tu le fais parce que tu as envie que tes potes, ta famille, les gens avec qui tu es connecté sur les réseaux, que ce soit dans le dark social ou en public sur Facebook, entament une conversation avec toi. C'est très intéressant là-dessus de garder ça en tête au moment où j'écris mon statut pour mon post social media de marque et de se dire comment est-ce que je peux encourager le tagage et le partage. Alors, un petit exemple, c'est le classique de CM. Avec qui aimeriez-vous partager cette belle et succulente tartiflette, par exemple? C'est un truc où tu sais que derrière, ça va taguer et potentiellement, ça va partager.
C'est clair que ça marche super bien. J'en vois une troisième de raison, je pense qu'on peut ajouter, notamment en 2021, avec notamment toute la tendance qui arrivera sur, et qui est déjà arrivée en 2020, sur les marques qui s'engagent. Je pense que quand une marque parle des valeurs qu'elle défend, il y a aussi là un déclic au niveau des utilisateurs sur ce bouton de partage. Parce que je pense qu'on partage aussi des posts qui parlent de valeurs qu'on défend nous-mêmes. Et justement, je pense que ça rejoint un petit peu le sentiment de se sentir appartenant à quelque chose. Mais voilà, en tout cas.
Oui, tu as le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus vaste que simplement la page Facebook à laquelle je suis abonné. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est règle numéro 5, assumer une tonalité de marque consistante. Alors ça, c'est pas évident, de savoir déjà comment parle ma marque, quelle est sa tonalité, est-ce qu'elle est formelle, informelle, factuelle, enthousiaste, drôle ou sérieuse. C'est pas une évidence de travailler ça. Il faut évidemment prendre un moment pour mettre les choses à plat et se dire comment est-ce qu'elle parle ma marque. Alors nous, on a développé ici un certain nombre d'outils quand on travaille, on accompagne une marque pour essayer de jauger et puis de prendre des décisions en amont de façon à sur la durée rester consistant.
Oui, oui. Il faut bien bosser sur effectivement les appels à l'action parce que c'est ça qui va déclencher quand même in fine, l'engagement de nos audiences. Donc pour ça, il y a différentes manières. Il y a déjà construire un statut qui engage. Je pense que Thibaut, ça c'est la base. Hein, c'est la première chose à faire, c'est arriver à écrire un statut qui engage. Parce que quand on écrit un statut, on a trop tendance souvent à oublier de questionner son audience. Et quels sont les objectifs pour nous d'un statut en social media? C'est de créer du lien avec l'audience, comme on le disait, d'inciter les audiences à interagir, d'apporter de la valeur ajoutée ou de contextualiser le contenu, le visuel qu'il va y avoir en dessous.
Ouais, donc, ça c'était la règle numéro 6 qui est celle d'ajouter un appel à l'action. Effectivement, tu as raison. À la fin de quand on fait un texte de statut, eh ben il faut aller le chercher cet engagement, hein, il va pas venir tout seul, hein, il faut aussi savoir être cash et direct là-dessus et qu'est-ce que j'attends et dire qu'est-ce que j'attends de mon audience qui est en train de lire ça, hein. Donc comment je peux l'engager factuellement dans mon texte de statut?
Exact. Et alors là, pour construire ça, et ben, y a pas, nous, on ne voit pas non plus 36 000 manières, même s'il y a plein de variantes qui peuvent un peu exister. On pense que pour faire un bon statut, il faut une accroche conversationnelle. Pour créer cette accroche conversationnelle, il faut questionner l'audience. Et pas de n'importe quelle manière, parce qu'il faut essayer de lui poser une question la plus ouverte possible. Trop souvent, on voit par exemple des questions rhétoriques qui appellent pas vraiment de réponse de la part des audiences. Ou alors, on peut aussi voir la question fermée qui peut fonctionner, mais qui demande un avis un petit peu plus simpliste, hein, de oui ou non à l'audience. Le mieux est vraiment la question
rhétorique. Un exemple de question rhétorique, par exemple, ça serait « Elle est pas belle, cette tartiflette ?»
Ouais, voilà. C'est très sympa, hein, mais...
C'est sympa, oui, forcément, vu que c'est de la tartiflette et que les gens adorent la tartiflette, vous allez avoir de l'engagement. Mais par contre, on est clairement sur une question qui est rhétorique et qui appelle pas forcément d'action immédiate à l'engagement.
Et qui appelle pas forcément un avis de la part de vos audiences ou de l'information que vos audiences pourraient vous donner en plus de ce que vous savez déjà. Donc, ce qui est intéressant quand on a une question ouverte, c'est qu'on va pouvoir leur demander, par exemple, avec quoi vous accompagneriez cette super tartiflette ou avec qui vous aimeriez partager cette tartiflette. Ou avec quoi, qu'est-ce que vous aimeriez boire avec cette tartiflette? Il y a plein de choses à poser comme question aux audiences pour avoir plus d'informations, aussi mieux les connaître, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Dans cette accroche conversationnelle, on peut ajouter aussi un petit peu de contexte au visuel qui est en dessous. C'est quand même souvent un peu plus lisible aussi pour les audiences et un peu moins brut. Si on reste sur cette idée de tartiflette, ça y est, l'hiver arrive, avec qui partageriez-vous cette tartiflette? Voilà, c'est
ouais, juste... faut contextualiser.
Voilà.
Très important. Et puis effectivement, si j'arrive à faire le lien entre mon wording et mon visuel, bah là, j'ai tout gagné.
Et derrière, on peut rajouter encore de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé cette accroche qui est là pour créer de l'engagement, de la conversation, on va pouvoir ajouter un peu plus de statut, pourquoi pas même quelque chose de plus long, qui va apporter de la valeur ajoutée. Donc, ça peut être de l'information sur la marque, ça peut être du savoir-faire, de l'information produit, des conseils ou même de la vanne, de l'humour, si c'est vraiment le ton qu'on a choisi d'avoir sur les réseaux. L'idéal, c'est donc d'avoir cette accroche conversationnelle, puis de la valeur ajoutée. Avec la tartiflette, on pourrait finir par quelque chose comme « C'est bientôt l'hiver, avec qui aimeriez-vous partager cette tartiflette ?» Nous, on vous donne une bonne recette, et là, vous donnez une recette de tartiflette, et c'est la valeur ajoutée.
Eh mec, ça rime, je ne sais pas si tu as remarqué.
Ouais, mais c'est parce que je suis MC à côté, donc c'est naturel chez moi, je n'arrive pas à m'empêcher.
Ouais, tout à fait. Et effectivement, et là, t'as tout dedans. C'est-à-dire que t'as une contextualisation par rapport à la photo. Donc, tu contextualises aussi par rapport à ce que vit tes audiences. Hein. Tu les as mis au cœur. T'as priorisé tes audiences. Ils vivent qu'il fait froid. Ils vivent que c'est l'hiver. Voilà. Donc, t'es totalement pris. Ensuite, t'as créé un texte que les gens veulent partager ou en tout cas, ils veulent taguer les autres parce que, voilà, typiquement, avec qui tu le partages, etc. On leur demande. Et puis, effectivement, t'as cet appel à l'action très clair. Avec une question qui n'est pas une question rhétorique, qui est une question immédiate, qui implique une réponse, et une réponse qui se passe dans les commentaires.
Ah ouais, c'est clair. Et puis, il y a la valeur ajoutée. C'est ça, ça va pousser peut-être plus au partage. Parce qu'au final, quand on a une valeur ajoutée comme ça, de tartiflette, peut-être qu'on va le partager à ses potes. On va le partager sur son mur en disant qui est chaud d'une bonne tartiflette, tu vois. Donc ça, c'est tout ce combo là qui va permettre de créer de la conversation et créer de l'engagement. On en parle comme ça, mais il y a plein de marques hein, qui utilisent ça. Il y a Milka, j'ai des exemples de Milka qui utilisent plutôt l'inverse, c'est-à-dire donner d'abord un peu de valeur ajoutée, puis ensuite ouvrir avec une question, mais pareil, des questions vraiment ouvertes, genre par exemple ils parlent d'un goûter, ils disent vous le prévoyez pour quelle occasion, ou alors dites-nous avec qui vous allez le partager. Donc on voit bien là la même construction de wording, mais j'ai retrouvé la même chose avec les cinémas Pathé Gaumont pour l'anniversaire de Leonardo DiCaprio, lequel de ses rôles vous a le plus marqué. Ou alors, donc en fait, je trouve surtout que ça dépend pas du ton. On n'est pas obligé d'être fun pour essayer d'utiliser cette formulation-là et poser des questions à son audience. On peut avoir un ton qui est même plus premium et plus sérieux, comme les cinémas Pathé Gaumont, ou même une marque dont on s'occupe.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a le sentiment bien souvent qu'effectivement, les marques qui engagent sur les réseaux, c'est les marques qui vont sur des tonalités justement un peu border et qui vont chahuter, je dirais, leurs audiences, ou en tout cas avoir un ton peut-être un peu Twitter, quoi.
Oui.
Mais on peut faire de l'engagement avec des belles marques premium, hein, à la condition d'appliquer un peu de méthodo et de s'appliquer au moment où on écrit.
J'ai l'exemple à l'agence chez nous, hein, qu'on bosse bien dans ce style-là, c'est Aost, qui est une marque avec un ton qui est assez sérieux, qui est quand même une marque premium, qui est pas en tout cas dans la blague ou la rigolade ou le ton un peu piquant avec ses audiences. Et pourtant, c'est une marque où il y a énormément d'engagement, où il y a énormément de conversationnel sous tous les postes. Et on a des exemples j'ai des exemples sous les yeux qui seraient: avec qui partageriez-vous ce plateau de viande des Grisons? Nous avons hâte de découvrir tous ces amateurs de charcuterie. Voilà, il y a pas besoin de faire beaucoup plus compliqué. Ou alors l'apéro c'est sacré. Que trouve-t-on dans votre apéro parfait? Voici un peu d'inspiration. Donc on peut être une marque aussi inspirationnelle, par exemple, et arriver à avoir de la conversation.
Voilà les amis, ce qu'on pouvait se dire ce matin. Alors on vous met tout ça évidemment en note de cet épisode, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses, mais on vous met les nos six règles pour des textes de statut qui engagent. Quelques petits exemples de marques, hein, si vous avez besoin de vous inspirer. Puis surtout, on est à votre disposition pour échanger sur les réseaux sociaux, @supernatif, sur à peu près toutes les plateformes.
Ouais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok ou même Pinterest. Et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, alors n'hésitez pas. Laissez-nous un petit commentaire, un petit message, une petite note, 5 étoiles, ça nous fait plaisir. Et puis surtout, parlez de ce podcast autour de vous.
Exactement. On vous souhaite à tous une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain. Salut tout le monde. Ciao.
Allez, ciao, ciao.